Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, consacrons aujourd'hui un second volet à l'homme aux semelles de vent. Il émane de lui une jeunesse, une entière et éclatante jouvence que cristallisent les deux quatrains du poème Sensation. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux, comme avec une femme. Une jouvence dont il a presque honte devant ses aînés. Dans sa première lettre à Théodore de Banville, du 24 mai 1870, il trichera même sur son âge, en affirmant « J'ai presque 17 ans ». Or, à cette date, il ne comptait pas même 16 ans. Et on connaît le vers célèbre qui ouvre et ferme le poème intitulé « Roman ». On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. La diéresse qui s'impose accentue la valeur de l'adjectif. On sait aussi qu'un poème porte le titre « Les poètes de 7 ans » à l'orée duquel on lit « Et la mère » fermant le livre du devoir, s'en allait, satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence, l'âme de son enfant livrée aux répugnances. La mère, très catholique et très pieuse, armée de la Bible, le livre du devoir, devait en effet, c'était inéluctable en ce temps, réprouver et même réprimander ses répugnances. Répugnances qu'un autre fragment du poème désigne avec assez de clarté. Il cédait de journaux illustrés où, rouge, il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Alors, pas sérieux quand on a 17 ans ? Les temps, pourtant, vont l'y contraindre. Le 18 mars 1871, la Commune de Paris est proclamée. Le 21 mai 1871, débute l'épouvantable répression versaillaise dans Paris, ce que l'on nomme la Semaine sanglante. Entre-temps, selon Ernest Delahaye, Rimbaud serait allé à Paris, il se serait même engagé dans les corps francs et aurait séjourné à la caserne de Babylone. Ce que confirmera Verlaine, je le cite, « Retour à Paris, pendant la Commune et quelques séjours à la caserne du Château d'Eau, parmi de vagues vengeurs de Florence, il ajoute entre parenthèses, Florence gazouillait ses éphèbes à ceinture blanche. Ces éphèbes, comme les désigne Verlaine, se sont engagés comme combattants, désireux en effet de venger Gustave Paul Florence, ethnologiste et professeur au Collège de France, capturé et sabré à Chatou le 3 avril 1871, par les troupes de Versailles. Et on ne peut pas dire qu'ils aient gazouillé, puisque ceux qui furent capturés seront fusillés au même titre que les hommes mûrs, au mieux parqués sur les pontons mouillés en rade de Brest. Cet engagement de Rimbaud demeure toutefois controversé. Certains de ses biographes allant jusqu'à évoquer un épisode traumatisant parmi une soldatesque bien plus fruste et rustre. Reste que Rimbaud composera au moins 3 poèmes dédiés au drame de la Commune de Paris. L'orgie parisienne, où Paris se repeuple, Les mains de Jeanne-Marie, daté de février 1872, et Le chant de guerre parisien. Lisons tout d'abord Les mains de Jeanne-Marie. Jeanne-Marie a des mains fortes, mains sombres que l'été tanna, mains pâles comme des mains mortes. Sont-ce des mains de Johanna? Ont-elles pris les crèmes brunes sur les mares des voluptés? Ont-elles trempé dans des lunes aux étangs de sérénité? Ont-elles bu des cieux barbares, calmes sur les genoux charmants? Ont-elles roulé des cigares ou trafiqué des diamants? Sur les pieds ardents des madones, ont-elles fané des fleurs d'or? C'est le sang noir des belladones qui, dans leurs paumes, éclate et dort. Mains chasseresses des diptères, dont bombinent les bleuisons aurorales vers les nectaires, mains décanteuses de poison. Oh, quel rêve les a saisies dans les pendiculations, un rêve inouï des Asies, des Kangavars ou des Sions. Ces mains n'ont pas vendu d'orange, ni bruni sur les pieds des dieux. Ces mains n'ont pas lavé les langes de lourds petits enfants sans yeux. Ce ne sont pas mains de cousines, ni d'ouvrières au gros front, que brûle au bois puant l'usine un soleil ivre de goudron. Ce sont des ployeuses d'échines, des mains qui ne font jamais mal, plus fatales que des machines, plus fortes que tout un cheval. Remuant comme des fournaises et secouant tous ces frissons, leur chair chante des Marseillaises et jamais les éléissons. Ça serrerait vos coups, ô femmes mauvaises, ça broierait vos mains, femmes nobles, vos mains infâmes, pleines de blanc et de carmin. L'éclat de ces mains amoureuses tourne le crâne des brebis. Dans leurs phalanges savoureuses, le grand soleil met un rubis. Une tache de populace les brunit comme un saint d'hier. Le dos de ses mains est la place qu'en baisa tout révolté fier. Elles ont pâli merveilleuses au grand soleil d'amour chargé sur le bronze des mitrailleuses à travers Paris insurgé. Ah, quelquefois, ô mains sacrées, à vos poings, mains où tremblent nos lèvres jamais désenivrées, crie une chaîne aux clairs anneaux. Et c'est un soubresaut étrange dans nos êtres quand, quelquefois, on veut vous déhaler, main d'ange, en vous faisant saigner les doigts. Ou encore, cet autre poème qui se situe au confluent de l'invective politique et du tableau parisien et qui date de mai 1871. Lisons alors les 19 quatrains de l'orgie parisienne. « Oh, lâche, la voilà, dégorgée dans les gares. Le soleil expia de ses poumons ardents les boulevards qu'un soir comblèrent les barbares. Voilà la cité belle, assise à l'Occident. Allez, on préviendra les reflux d'incendie. Voilà les quais, voilà les boulevards, voilà, sur les maisons, l'azur léger qui s'irradie, et qu'un soir, la rougeur des bombes étoila. Cachez les palais morts dans des niches de planches. L'ancien jour effaré rafraîchit vos regards. Voici le troupeau roux des tordeuses de hanches. Soyez fous, vous serez drôles, étant hagards. Tas de chiennes en rute, mangeant des cataplasmes. Le cri des maisons d'or vous réclame. Volez, mangez, voici la nuit de joie au profond spasme qui descend dans la rue, ô buveurs désolés. Buvez, quand la lumière arrive, intense et folle, fouillant à vos côtés les luxes ruisselants, vous n'allez pas baver sans geste, sans parole, dans vos verres, les yeux perdus au lointain blanc. Avalez pour la reine, aux fesses cascadantes, écoutez l'axillon des stupides hoquets, déchirant. Écoutez sauter aux nuits ardentes les idiots, râleux, vieillards, pantins, laquais. Ô cœur de saleté, bouches épouvantables, fonctionnez plus fort, bouches de puanteur. Un vin pour ces torpeurs ignobles, sur ces tables, vos ventres sont fondus de honte, ô vainqueurs. Ouvrez votre narine aux superbes nausées, trempez de poison fort les cordes de vos coups. Sur vos nuques d'enfants, baissant ses mains croisées, le poète vous dit « Ô lâche, soyez fou! Parce que vous fouillez le ventre de la femme, vous craignez d'elle encore une convulsion qui crie asphyxiant votre nichée infâme sur sa poitrine en une horrible pression ? Syphilitique, fou, roi, pantin, ventriloque, qu'est-ce que ça peut faire à la putain Paris, vos âmes et vos corps, vos poisons et vos loques ? Elle se secouera de vous, hargneux pourri. Et quand vous serez bas, geignant sur vos entrailles, les flancs morts, réclamant votre argent, éperdu, la rouge courtisane au sein gros de bataille, loin de votre stupeur, tordra ses poings ardus. Quand tes pieds ont dansé si fort dans les colères, Paris, quand tu reçus tant de coups de couteau, quand tu gis, retenant dans tes prunelles claires un peu de la bonté du fauve renouveau, oh, cité douloureuse, oh, cité quasi morte, la tête et les deux seins jetés vers l'avenir, ouvrant sur ta pâleur ces milliards de portes, cité que le passé sombre pourrait bénir. Corps remagnétisé pour les énormes peines, tu rebois donc la vie effroyable ? Tu sens sourdre le flux des vers livides en tes veines et, sur ton clair amour, rôder les doigts glaçants ? Et ce n'est pas mauvais, tes vers livides, ne gêneront pas plus ton souffle de progrès que les strix n'éteignaient l'œil des cariatides ou des pleurs d'or astral tombaient des bleus degrés. Quoique ce soit affreux de te revoir couverte ainsi, quoiqu'on n'ait fait jamais d'une cité ulcère plus puant à la nature verte, le poète te dit « Splendide est ta beauté, l'orage, ta sacrée, suprême poésie, l'immense remuement des forces te secourt, ton œuvre boue, la mort gronde, cité choisie, amasse les strideurs au cœur du clairon lourd. » Le poète prendra le sanglot des infâmes, la haine des forçats, la clameur des maudits, et ses rayons d'amour flagelleront les femmes. Ces strophes bondiront. Voilà, voilà, bandit ! Société, tout est rétabli. Les orgies pleurent, leur ancien râle, aux anciens lupanards, et les gaz en délire, aux murailles rougies, flambent sinistrement vers les azurs blafards. Poète de 17 ans a été touché au cœur par l'écrasement de la Commune et par l'immense espoir qu'elle a suscité. C'est là la corde sombre de sa lyre. Il lui arrive cependant, souvenons-nous du poème « Ma bohème », de tirer encore d'autres élastiques qui composent un art poétique révolutionnaire, avec notamment le célèbre sonnet des voyelles à propos duquel le poète Yves Bonnefoy livre cette analyse. Mais comment ne pas voir que si même quelques raisons particulières, conscientes ou pas, a joué un rôle dans l'intérêt de Rimbaud pour la couleur des voyelles ou l'association de tel ou tel au noir, au vert ou au rouge, ce qui est signifiant dans ces vers, poétiquement signifiant, est à un tout autre niveau, où ce ne sont plus des motivations propres à chaque cas qui joue dans l'appariement, parce que le poète a voulu d'entrée de jeu que ce soit au hasard, avec arbitraire, qu'il avancerait ses propositions. Rimbaud veut le dérèglement. Et comment mieux porter celui-ci dans la relation des mots et des choses qu'en associant quelque chose des mots à quelque aspect dans les choses, mais ceci d'une façon si privée de raisons perceptibles ou imaginables qu'à en parler, on va mettre la réalité en désordre et faire qu'en retour, elle refluera parmi les vocables pour en changer les rapports, y décomposant l'image du monde. Lisons à présent ce sonnet des voyelles. Voyelles. A, noir. E, blanc. I, rouge. U, vert. O, bleu. Voyelles, je dirais quelques jours vos naissances latentes. A, noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles, golfes d'ombre. E, candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelles. I, pourpre, sans cracher, rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes. U, cycle, vibrement divin des mers virides, paix des pâtis semées d'animaux, paix des rides que l'alchimie imprime au grand front studieux. Ô, suprême clairon, plein des strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges. Ô, l'oméga, rayon violet de ses yeux. Et le poème est suivi d'un quatrain qui paraît l'illustrer. L'étoile a pleuré rose au cœur de tes oreilles, l'infini roulé blanc de ta nuque à terrain, la mer a perlé rousse à tes mâmes vermeilles, et l'homme saigné noir à ton flanc souverain. Mais une autre lettre à Théodore de Banville, datée du 15 août 1871, signée du pseudonyme d'Alcide Bava, que l'on peut ainsi décomposer, Alcide ou le Vaillant, épithète grecque traditionnelle pour désigner Héraclès, et Bava, c'est-à-dire crachat son encre. Cette autre lettre, avec esprit, règle son compte à tous les Parnassiens. Lisons un court extrait du poème qui a été joint à la lettre. Ô blanc chasseur, qui course en bas à travers le pâtis panique, ne peux-tu pas, ne dois-tu pas connaître un peu ta botanique ? Tu ferais succéder, je crains, aux grillons roux les cantharides, l'or des rios, au bleu des reins, bref, aux Norvèges les Florides. Mais, cher, l'art n'est plus maintenant, c'est la vérité, de permettre à l'eucalyptus étonnant des constrictors d'un hexamètre. Là, comme si les acajous ne servaient, même en eau Guyane, qu'aux cascades des sapajous, au lourd délire des lianes. En somme, une fleur, romarin ou lys, vive ou morte, vaut-elle un excrément d'oiseau marin ? Vaut-elle un seul pleur de chandelle ? Et j'ai dit ce que je voulais. Toi, même assis là-bas, dans une cabane de bambou, volet, clos, tenture de perse brune, tu torcherais des floraisons dignes d'oises extravagantes. Poète, ce sont des raisons non moins risibles qu'arrogantes. Et puis, il y a la véhémence du regard de Rimbaud sur l'humanité qui l'entoure, sur les assis, sur les effarés, sur les douaniers, sur les premières communions, sur les pauvres à l'église. Lisons le poème « Les pauvres à l'église ». Parqués entre des bancs de chêne, au coin d'église, qu'attiédit puamment leur souffle, tous leurs yeux, vers le cœur ruisselant d'orris et la maîtrise, aux vingt gueules gueulant les cantiques pieux, comme un parfum de pain humant l'odeur de cire, heureux, humiliés comme des chiens battus, les pauvres au bon Dieu, le patron et le sire, tendent leurs orémus, risibles et têtus. Aux femmes, c'est bien bon de faire des bancs lisses, après les six jours noirs où Dieu les fait souffrir. Elles bercent, tordues dans d'étranges pelisses, des espèces d'enfants qui pleurent à mourir, leurs seins crasseux dehors, ces mangeuses de soupe, une prière aux yeux et ne priant jamais, regardent parader mauvaisement un groupe de gamines avec leurs chapeaux déformés. Dehors, la nuit, le froid, la faim, l'homme en ribote. C'est bon, encore une heure. Après, les mots, sans nom. Cependant, alentour, Jeanne, Nazie, chuchote une collection de vieilles affanons. Ces effarés y sont et ces épileptiques dont on se détournait hier au carrefour. Et, fringalant du nez dans des micelles antiques, ces aveugles qu'un chien introduit dans les cours. Et tous, bavant la foi, mendiante et stupide, récitent la complainte infinie à Jésus, qui rêve en haut, jauni par le vitrail livide, loin des maigres mauvais et des méchants pansus, loin des senteurs de viande et d'étoffes moisies, farce prostrée et sombre aux gestes repoussants. Et l'oraison fleurie d'expressions choisies et les mysticités prennent des tons pressants. Quand, des nefs où périt le soleil, plis de soie banale, sourire vert, les dames des quartiers distinguées, ô Jésus, les malades du foie font baiser leurs longs doigts jaunes au bénitier. Thank you. La semaine prochaine, nous évoquerons la saison en enfer et nous lirons aussi quelques-unes des péninsules démarrées des illuminations. C'est dans une saison en enfer que l'homme des tohu-bohu triomphants livrera tant d'aphorismes saisissants. Pour conclure, citons-en quelques-uns. La vie est la farce à mener par tous. Décidément, nous sommes hors du monde. Je devrais avoir mon enfer pour la colère, mon enfer pour l'orgueil et l'enfer de la caresse, un concert d'enfer. Je suis caché et je ne le suis pas. La vraie vie est absente. Nous ne sommes pas au monde. L'amour est à réinventer. J'avais été damné par l'arc-en-ciel. Ma vie serait toujours trop immense pour être dévouée à la force et à la beauté. Il faut être absolument moderne. Recevons tous les influx de vigueur et de tendresse réels. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre tout d'abord Gauthier Capuçon et Camille Berthollet qui interprétaient le morceau intitulé « Palladio » du compositeur Carl Jenkins, ensuite du compositeur Arvo Pärt. Vous avez entendu par l'ensemble « I Fiamminghi » pour violoncelle et piano, le morceau intitulé « Fratresse ». Et enfin, vous avez entendu un court extrait de la « Werkleuchtnacht », pardon pour ma mauvaise prononciation de l'allemand, « La nuit transfigurée » de Schoenberg. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.